Vous écoutez
RMC. RMC, le bras de fer GG.
Et c'est fini, c'est fini. Un coup droit qui sort très très loin. Et Rafa Nadal s'incline face à Sacha Zverev à l'issue d'un énorme match. Mais c'est une défaite en 3-7. J'ai envie de dire défaite héroïque, mais il est tombé sur plus fort que lui.
Ça fait 5 ans que tu prends pour un con.
Pas de podium pour Raphaël Nadal et je le surveille parce que c'est peut-être la dernière fois qu'on le voit quitter le court Philippe Châtrier. Est-ce qu'il y pense dans sa tête? Je sais pas. En tout cas, il s'arrête, il va vers le centre du terrain, il salue la foule.
Il y a 20 ans, t'étais le meilleur, le king, le top.
Et c'est un ace. Oh le mec, il est à genoux, Raphaël Nadal. Il l'a fait. Incroyable démonstration de puissance, de tout. C'est le plus grand terrien de tous les temps.
Et tu crois que c'est facile les trois tops tous les jours?
Allez, deuxième balle, elle est dedans. Retour de Nadal, il est profond. Il est débordé Nadal, c'est fini. C'est fini, c'est peut-être la dernière fois qu'on voit Nadal sur un court de tennis. Peut-être, en tout cas, il n'a pas pu apporter le poids de la victoire. Nadal, pari perdu, défaite 6-4-6-4 face à Botic Van de Solschoen.
Mardi soir, tard, très tard, Rafael Nadal a dit adieu au tennis dès les quarts de finale de la Coupe Davis, des adieux précipités. L'Espagne s'attendait à une semaine de folie à Malaga autour de son champion. Elle n'aura eu qu'une journée. Rafael Nadal a fait son âge pour le dernier match de son immense carrière. Son oncle, Tony Nadal, n'a pas aimé l'hommage rendu à son neveu après le double perdu par l'Espagne. Est-ce qu'il a été à sa hauteur? Non, c'était émouvant, mais j'aurais juste aimé quelque chose d'un peu différent. Une légende peut-elle réussir sa sortie? Dans le coin gauche, la team oui, Julien Beneteau, Christophe Cessieux. Dans le coin droit, la team non, Denis Charvet, Sarah Pitkowski. C'est donc un 2 contre 2. Avant de débattre, on vous a évidemment consulté sur le compte X des grandes gueules du sport. Je vais vous donner une première estimation dans quelques instants, mais nous retrouvons notre spécialiste tennis, évidemment, qui commente à la perfection le tennis sur RMC, Eric Salio. Salut Eric.
Bonne journée à tutti.
Arrête avec cet italien. Pourquoi tu parles italien comme ça?
Ça parle espagnol au moins.
L'Italie est en train de...
Buenos dias.
De rouler sur le tennis, c'est
exactement.
Ça ouais. Ok. Les amoureux du tennis...
On va peut-être en tirer des conséquences, non?
C'est pour ça qu'il m'a dit que l'Australie allait battre l'Italie, mais bon, pas grave.
Eric, revenons à nos moutons. Oui. Les amoureux du tennis avaient fantasmé ce moment. Il a un peu fait pchit, ce moment.
Oui, pchit presque à tous les niveaux. D'abord parce que David Ferrer, le capitaine espagnol, a voulu titulariser Rafa Nadal en simple face à un joueur, Botic Van de Solschoen, certes peu connu, mais quand même, qui avait battu Carlos Alcaraz à l'US Open. Rafa, tu l'as dit, il a affiché sa lenteur, ses insuffisances. Presque normal après tant de mois sans compétition. Et lorsqu'il s'est présenté en conférence de presse vers 20h, au fond de lui, il se doutait qu'il ne refoulerait plus un court de tennis.
Si j'étais le capitaine, probablement que je ne me sélectionnerais pas pour la suite s'il y en a une. Mais ce ne sera pas ma décision. Finalement, c'est probablement mon dernier match si on ne sort pas. Vous savez, j'ai perdu mon premier match de Coupe Davis en 2004 et j'ai perdu le dernier. On peut dire que la boucle est bouclée.
À ce moment, il espérait encore aider ses potes à conquérir la qualification pour les demi-finales. On l'a vu se lever pour encourager Carlos Alcaraz dans le deuxième simple. Et quand Carlitos égalise, il ne pense pas à son destin personnel. Il croit toujours à la victoire collective. Mais le double décisif bascule en faveur des Néerlandais avec un cool-off exceptionnel. Et quand Marcel Granollers est mitraillé sur la balle de match, Rafa Nadal est comme interloqué. Il est minuit 2. Sa carrière de joueur vient de s'arrêter alors qu'il n'était même pas acteur. C'est ensuite l'heure d'une petite cérémonie que les ordinateurs imaginaient mettre en place dimanche. Pendant près de 15 minutes, Nadal tient le micro avec un flashback sur le môme qu'il était.
J'aimerais qu'on se souvienne de moi comme d'une bonne personne venant d'un petit village de Majorque. J'ai eu la chance de grandir dans ce village, entouré d'un oncle entraîneur de tennis et d'une famille qui m'a soutenu à chaque étape de mon parcours. Je suis simplement un enfant qui a suivi ses rêves et a travaillé dur pour arriver là où je suis aujourd'hui. Beaucoup de gens s'investissent et font de leur mieux chaque jour, mais j'ai eu l'opportunité de vivre des expériences inoubliables grâce au tennis. Au final, j'aimerais qu'on se souvienne de moi comme quelqu'un de bien, un gamin qui a accompli bien plus que ce qu'il avait jamais imaginé.
L'émotion le saisit à la diffusion d'un clip qui voit défiler sa carrière et dans lequel Serena Williams, Roger Federer et Novak Djokovic lui glissent quelques mots. Mais le Suisse et le Serbe, ses plus grands rivaux sur le circuit, brillent par leur absence à Malaga. Finalement, aucune image forte ne se dégage, contrairement aux adieux de Federer il y a 2 ans. À Londres, on se souvient tous du cliché mythique de Roger et Rafa en pleurs se tenant par la main. À Malaga, c'était très light. Trop light, peut-être.
Et tout de même les Rafa, nous allons en débattre, parler de cette cérémonie d'adieu, mais également plus largement se demander si une légende peut réussir sa sortie. Nous vous avons posé cette question sur le compte Twitter des Grandes Gueules du Sport. Et pour vous, je suis très étonné, absolument pas de débat. Pour vous, c'est oui à 80%, non à 20%. Donc le camp du non, représenté par Sarah et par Denis, c'est vous qui allez commencer. Denis, pourquoi non? Pourquoi une légende ne peut pas réussir sa sortie?
Ben d'abord, ça veut dire quoi réussir sa sortie? Parce que une légende, ça reste dans l'histoire, ça reste dans l'histoire de son sport, dans l'histoire tout court. Mais réussir sa sortie, ça veut dire quoi? Bon, tu me parles de Federer, Eric. J'ai trouvé grotesque la sortie de Federer. Si tu me dis, explique que la sortie de Federer, quand il fait son grand carnaval avec ses pleurs avec Federer, avec Nadal, moi j'ai trouvé ça horrible. Donc j'ai dit non, elle peut pas réussir. Mais quelque part, la sortie de Nadal, je l'ai aimée. Parce qu'elle est sobre, que en fait il dit des choses extraordinaires, parce qu'il dit je vais pas partir un an en exhibition parce que moi j'ai pas l'ego pour. Donc ça veut dire qu'il reste ce qu'il est vraiment.
Tu as préféré la fin réaliste de Nadal,
mais non,
avec l'incertitude de sport plutôt que la fin fake de Federer.
Mais bien sûr, parce que en fait, attends, je vais finir. En fait, un champion il sort par la porte qu'il peut. C'est Jean-Pierre Rive qui disait moi je suis sorti par la porte de l'infirmerie. Mais c'est la vérité. J'ai pris quelques champions, Jordan, Ali, Tyson, Woods. Ils sont sortis comme ils ont pu. En fait, tu choisis pas pour moi.
Woods, il n'est pas sorti encore.
Oui, mais enfin, bon,
oui, il n'est
pas
sorti. Mais
quasiment,
bon,
c'est pire.
Mais voilà, donc, quand tu réfères au grand champion de l'histoire du sport, je suis désolé, tu choisis pas vraiment ta sortie. Federer, il n'a pas vraiment choisi. Qu'est-ce qu'il a arrêté? Il était blessé.
Federer, il a choisi sa.
Le problème des sportifs de haut niveau, c'est qu'ils ont toujours l'impression qu'il va y avoir une dernière danse fabuleuse et qu'ils vont rester toujours au sommet de ce qu'ils sont. Et ils sont toujours poussés à aller jusqu'au bout, faire le match de trop ou faire le comeback de trop. Il y en a tellement qui ont fait le comeback de trop. Donc, ça demande quand même de prendre sur soi, d'arriver à analyser la situation, d'arriver à se
mais motiver. Mais est-ce que t'es lucide pour... quand t'es
mais il y en a certains qui l'ont réussi.
Non, mais il y a déjà un souci.
Le plus grand sportif, pour les Américains, le plus grand sportif de l'histoire, Michael, il s'appelle Jordan. Michael Phelps. Eh bien, Michael Phelps, il est sorti avec une 23e médaille d'or consécutive aux Jeux Olympiques.
C'est l'exception qui infirme la règle.
David Douillet, c'est quoi? C'est une exception aussi, David Douillet, pareil.
C'est des exceptions qui infirment la règle.
Ah oui, mais c'est des exceptions.
Oui, elle a raison,
mais tu me demandes des exemples, je t'en donne deux là.
Oui, moi je vais t'en donner d'autres. Je vais t'en donner d'autres.
Non, mais la question c'était, une légende peut-elle réussir sa sortie? Je t'en donne deux, donc maintenant t'as faux. Voilà.
Non, mais je rêve.
Sachant aussi que David Douillet, et ça peut être l'axe de notre débat, c'est ce que tu disais aussi, mon cher Denis, c'est que David Douillet, il aurait aimé continuer.
Exactement.
Mais son corps l'a lâché.
Il l'a lâché avant et il a réussi. Donc, il a réussi à aller jusqu'au bout.
Ça, c'est vrai.
Zidane, il est passé à un doigt de la plus grande sortie de l'histoire. Il avait fait un comeback extraordinaire. Il réussit une Coupe du Monde incroyable.
Mais c'est un bon exemple parce qu'il a
raté complètement. Et pour rien du tout.
Est-ce qu'il a pas réussi justement sa sortie sur une finale de Coupe du Monde?
Mais non, il a pas réussi du tout.
C'est l'image qui restera.
Mais quand on parle de la sortie, c'est pas une image positive.
Donc Christophe, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la mission impossible, c'est-à-dire que selon toi, réussir sa sortie, ce serait de choisir le bon moment, le bon endroit, et d'avoir anticipé le résultat. Mais c'est quoi le sport? L'incertitude du sport? Tu choisis pas quand tu vas gagner ou quand tu vas perdre.
Je dis pas, qu'ils ont choisi.
Si, parce que si Zidane, s'ils sont champions du monde, pour toi, à partir du moment où ils gagnent, ils réussissent sa sortie.
Si mais
le résultat, le sportif, par définition, ne peut pas avoir la décision finale sur le résultat sportif. Nicolas Karabatic, la sortie idéale, elle aurait été quoi? De finir à Paris et champion olympique. Et pour autant,
donc
il rate sa sortie. La difficulté.
Mais tu rates ta sortie parce que que tu veux toujours un peu plus prolonger.
Mais ça n'est pas une
dernière échéance. Donc tu ne sais pas t'arrêter. Donc tu ne sais pas t'arrêter. C'est ça le problème, c'est que la plupart ne savent pas s'arrêter.
Ça dépend où tu places la fin de ta carrière.
Au niveau au sommet.
Moi, j'en tiens pas rigueur à tous ces mecs-là qui ont peut-être, sauf à certains, je veux dire, quand tu vois Tyson qui revient sur les cours, moi, j'avais de la peine pour lui la semaine dernière. Oui, ça, quand tu vois Woods qui revient sur les, qui marche presque, il lui faut des béquilles pour arriver sur les greens, je trouve ça triste. Quand tu vois Ali qui dispute ses derniers combats et qui est à moi, qui est déjà Parkinson.
Christophe, t'as un exemple aujourd'hui.
Donc, il faut savoir s'arrêter.
Teddy Riner, par exemple, il y a quel âge Teddy Riner?
J'ai peur qu'il fasse le goal.
Voilà. Donc, Teddy Riner, c'est l'exemple même du sportif, il ne sait pas s'arrêter. Ouais. Et tu le dis, mais je pense qu'un sportif, il n'est pas capable de s'arrêter.
Ok.
Je pense qu'il est rattrapé toujours par une blessure
par l'attrait
ou autre chose.
Parce que tu le sais, toi, tu as écrit un bouquin là-dessus sur la fin de la carrière. C'est une petite mort. Et évidemment, tu n'as plus ni l'adrénaline, ni les sous qui vont avec. Donc, forcément, tu as toujours envie de continuer.
Sarah termine et après Julien. Sarah.
Oui, je reviens toujours à cette histoire que pour moi c'est une mission impossible. Ça dépend où on place la fin de sa carrière. Est-ce que la fin de sa carrière c'est une petite mort, comme ça arrive à de nombreuses personnes,
à 99%.
Exactement. Ou à un moment, c'est-à-dire que tu as déjà pris du recul sur toi-même, sur ce que tu es. Parce qu'un sportif, c'est pas quelqu'un qui va au travail de 9h à 18h ou de 9h à 20h. Tu es sportif et athlète de haut niveau, 24h sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365 jours. Donc, si tu le places du côté de 99%, de fermer la dernière page du livre, une petite mort, ou tu la mets, c'est une seconde carrière. J'ai eu ma première carrière sportive et je vais évoluer dans un autre univers. C'est un vrai débat philosophique. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que réussir une sortie, réussir une fin de carrière. Mais déjà, c'est antinomique, ces deux mots. Ça ne va pas.
Mais regarde Christophe, il n'a pas réussi sa sortie. Impossible. Parce qu'il est encore là.
Je combats trop. L'émission de trop. Non, mais,
par exemple, pour
avec les grandes gueules de trop. Je vais dire, après, ça fait 20 ans que je te suis, j'en peux plus.
Pour Raphaël Nadal, la question avait pu se poser quand il gagne ce Roland-Garros inouï alors qu'il est totalement blessé. Oui. S'il arrête à ce moment-là, je dis pas que ça change sa carrière, ça donne une autre envergure.
Ça change rien à sa carrière.
Ça change rien. Mais ça imprime sa sortie.
Mais c'est le bon, Nadal, c'est le bon exemple, Nadal. Ouais, parce que justement,
il est persuadé qu'il peut encore gagner.
Mais bien sûr.
Julien,
Teddy Riner, il gagne à Paris. Il est persuadé qu'en faisant la même chose, il sera toujours imbattable dans 4 ans.
Ça aurait pas été exceptionnel de le voir dire adieu à la carrière.
Mais je suis d'accord, mais c'est très compliqué.
Julien,
j'ai l'impression qu'on mélange deux choses. La sortie,
Julien.
Parce qu'on a parlé de Federer, la scénographie, etc. Comparé à celle de Nadal à Malaga à minuit, 10 minutes, pas de. Il y a à la fois la sortie sportive, il y a aussi l'emballage de la sortie, c'est ça.
Les hommages qui vont être faits après.
Tony Nadal, c'est ce qu'il a dit. Mais en fait, les hommages, il les aurait eus s'il avait accepté cette année la direction du tournoi de Roland-Garros. Lui a demandé à Raphaël Nadal.
Parce qu'il pensait revenir, je pense, au fond de lui.
C'est pas sûr.
Et avec les larmes de tout le monde, rien que pour ça, je trouve que c'est beau.
Sarah, pas d'accord.
Mais non, je suis pas d'accord. On peut pas définir quand est-ce qu'on va s'arrêter. Enfin, il faut se mettre dans la peau de quelqu'un qui, à un moment ou un autre, vit un déchirement. Alors, t'en as quelques-uns. Tu l'as dit, Michael Phelps. Il y a Ashleigh Barty, 25 ans. Elle gagne l'Open d'Australie. Elle dit merci, je suis numéro 1 mondial. Elle tire sa révérence.
Borg à 26 ans.
Exactement. Elle dit je veux arrêter, je veux faire un enfant. Mais ces cas-là, ils sont extra rares. Manodou, elle te dit qu'elle arrête après ses médailles et elle, en fait, elle replonge 4 ans après. C'est
et
moyen.
Frère, et Florent Manodou, il a fait la même chose. Comment il s'appelle Borg, en plus Borg, il s'arrête à 26 ans. Il fait une dépression derrière.
La psychologie à ce moment-là, Christophe, elle est tellement incompréhensible. Tu peux pas demander à Nadal qui perd à Roland Garros en disant en l'espace de 5 secondes, il range sa raquette et au fait, ça y est, je vais arrêter. Mais quel être humain qui a été au sommet de son sport peut switcher de cette manière-là? Émotionnellement, psychologiquement, ce n'est pas possible.
Mais moi, je trouve que la sortie de Nadal est très significative dans le sens où Nadal, finalement, il est comme les autres, en fait. C'est-à-dire qu'il a cru qu'il pouvait encore gagner, alors qu'il était incapable de gagner. Il a été surclassé par un mec qui était 140, tu me dis qu'il est bon, mais il est 140e. Mais je veux dire, oui, mais enfin, je veux dire, s'il est chez lui à Malaga, il a joué parce qu'il était convaincu qu'il allait gagner. Non, mais je le pense vraiment.
Je pense qu'il raisonnait collectivement aussi.
Oui, mais
il voulait une belle photo de famille autour du stadier avec Alcaraz.
Il demandait pas à jouer en simple. Oui, mais c'est voilà. Il s'attendait pas à jouer en simple d'ailleurs.
Pique Ferrer lui dit tu vas y aller.
Oui, mais il aurait pu dire à Ferrer je pense que je suis pas capable.
Ah si. C'est pas Nadal.
Je suis désolé. Ah ben d'accord,
mais c'est pas Nadal.
Sauf que le risque était grand puisque l'enjeu était là.
Ce qui était fou quand même, c'est qu'il dit après son match, alors que l'Espagne est encore en course, moi en simple, vaut peut-être pas
oui,
mettre.
En plus, le non, mais
comment ce serait passé oui, la fin du tournoi sans Rafael Nadal?
Je préfère l'avoir vu être battu sur le court plutôt que l'équipe d'Espagne éliminée sans que Nadal ait joué. Alors là, ça
aurait
été
d'accord, peu. Mais
justement, Pierre veut revenir sur cette dernière sortie de Rafael Nadal. Bonjour Pierre.
Bonjour les grandes gueules du sport.
Merci d'avoir Bonjour. Composé le 32-16. Tu veux revenir sur ces adieux?
Alors déjà, en sportifs qui ont plutôt bien réussi leur sortie, il y a Kobe Bryant aussi qui a bien réussi sa sortie. Avec un dernier match à 60 points qui donne la victoire aux Lakers. Enfin,
c'est vrai, il y en a plein.
Vous l'avez pas cité.
Un exemple.
Non, mais il y en a.
L'avait pas.
Et il l'avait dit. Et c'était son dernier match.
Il l'avait dit, oui. C'était sa dernière saison. Il a fait un farewell tour, une tournée d'adieu sur toute la saison. Enfin, c'était pas mal. Hein. Franchement, c'était une belle sortie. Enfin, sur Nadal, moi, je pense qu'en fait, il aurait dû arrêter après Roland Garros, après la défaite contre Zverev. Voilà, passage de témoin à la nouvelle génération. Il aurait dû faire le double avec Alcaraz, juste le double au JO, et parce que fallait voir Alcaraz Nadal, ça, c'était pas mal. Mais en fait, les sportifs, pour moi, c'est comme vous savez, quand vous mangez un bon repas. Et voilà, vous avez plus faim, mais vu que le repas est bon, vous voulez en reprendre. Et le problème, c'est que le lendemain, vous allez avoir l'indigestion, quoi. En fait, je pense que pour réussir sa sortie, faut pas être gourmand. Faut se dire, bon, voilà, j'y arriverai plus. Et arrêter de se dire, je vais peut-être encore y arriver, encore avoir
mais
un coup d'éclat.
Ça, c'est une utopie, c'est pas possible.
C'est une utopie, quoi.
Tu vas finir chez Adrien Higuain.
Non, vous êtes très bien compris.
Dire qu'un sportif, à un moment, quand il est blessé, où il est en train de décliner, il se dit, bon, bah, quand je remonterai pas, j'arrête. Mais qui on est pour dire à un sportif d'arrêter quand
mais c'est impossible.
C'est impossible. Non, et il y en a qui auraient dû arrêter et qui ont continué à avoir des titres. Et s'ils s'étaient dit à la première baisse de régime ou à la première blessure, c'est terminé, je pourrais plus. Mais on en aurait perdu plein haut.
Pierre veut répondre.
Oui, mais Sarah, pour Nadal, on parlait pas de la première blessure et du premier déclinement. On parlait quand même
de plusieurs
blessures.
Non, mais notre débat, il faisait
un moment qu'il
n'arrivait
plus à revenir. Oui, mais pour tous les sportifs, Zidane, par exemple, à la Coupe du Monde 2006, il aurait pu encore re-signer au Real Madrid une ou deux années.
Mais Zidane était revenu avant, quand même, souviens-toi.
En fait, il a su que ça serait la dernière danse, et c'est peut-être mieux, justement, de l'annoncer avant que ça serait la dernière danse. Et puis te concentrer à fond sur le dernier objectif. Alors que Nadal, en fait, il repoussait à chaque fois. Par exemple, il se disait c'est pas encore la dernière. Et au final, franchement, moi Nadal, à la fin, j'adore le joueur, hein, mais il m'a fait plus de peine qu'autre chose sur les derniers tournois. Hein.
Pierre, quand tu t'arrêtes, t'es sportif, t'as fait toute ta vie, t'es construite autour du sport, matin et soir. Quand tu t'arrêtes, tu sais que la fin est proche, mais tu repousses tout le temps, jusqu'à un moment où tu te dis, c'est le corps, il est plus là, tu peux plus. Mais tu peux pas décider du jour au lendemain, tu dis, tiens, alors tu en as, tu me dis, parle de Kobe Bryant, il a quoi, deux ou trois, je dis, sportifs, mais après le reste, c'est impossible, je suis comme Sarah,
tu décides pas quand est-ce que tu vas prendre ta retraite.
C'est un choix insoluble. Tu t'en souviens au moment où tu as décidé de prendre ta retraite, Julien?
Ouais, mais j'ai eu la chance de choisir. C'est-à-dire qu'à l'été 2017, je me suis dit 2018 ce sera la dernière, quoi qu'il arrive. Et donc du coup.
Et pourquoi, c'est une question de niveau ou c'était
d'envie? J'ai très très bien joué fin 2017, demi à Bercy, 2018 je joue bien et tout.
Et ça t'a poussé à dire en fait si j'en ai encore sous le pied?
T'as été tenté à un moment?
Non,
jamais.
Moi j'ai arrêté à 35 ans parce que j'avais dit je vais arrêter à 35 ans. Mais la prise de champion de France. Stade français.
Et toi, t'es parti en dépression nerveuse.
Ouais. Ouais.
Non, con, hein. Tu crois que je suis en dépression quand j'essaie de dire rad ici, hein? Non, pas du tout.
Il l'a déjà fait, t'as déjà viré. Ouais.
il m'a mis sur le strapontin.
C'est parce que j'ai aucun courage, donc j'ai fait les choses à moitié. Merci beaucoup, Pierre, d'avoir composé le 32-16. Merci beaucoup, Eric Salio, d'avoir été avec nous.